Africain, actualité.
Frédéric Tchingilo.
Nous sommes tous consommateurs de produits agricoles. Les sols utilisés par les agriculteurs s'appauvrissent et certains réussissent à développer des techniques pour une agriculture durable. Pour nous en parler de ces techniques, notre invité de la semaine est M. Patrick Baemna, expert en agroécologie, chargé des formations et stages au Centre international de développement agropastoral SIDAP Baga, dans la préfecture de Doufelgou. Nous l'avons rencontré dans une ferme du centre. Il est au micro de Yasmine Adoko.
Monsieur Baemna, bonjour.
Bonjour madame.
Comment êtes-vous parvenu à développer une agriculture sur un sol aride?
Nous pouvons dire déjà que ce qu'on appelle terre aride, c'est des terres pauvres qui ont un faible rendement. Et ces terres-là ne permettent pas de faire l'agriculture par principe. Sur la base de ce constat, donc nous nous sommes dit qu'il est important de faire d'abord un diagnostic pédologique pour savoir de quelle maladie souffre ce sol. Et nous avons vu plusieurs aspérités qui font de ces sols-là des sols pauvres. Et nous nous sommes dit qu'il est important de restaurer ces sols. Et donc par la méthode de restauration mécanique et la restauration biologique. La restauration mécanique consiste à enlever du sol tout ce qu'il y a comme roche. C'est ça qu'on appelle le dérochement. Il faut dégager ces pierres-là pour libérer les sols. Donc, c'est une forme de restauration de ce sol. Vous pouvez avoir aussi un sol où il y a assez d'arbustes ou des souches. Ça occupe le sol, ça fait de la pauvreté. Donc, il faut enlever ces souches-là mortes et ça permettra de libérer le sol.
Ça veut dire que vous mettez de côté toutes ces pierres, tous ces arbres ou arbustes pour en créer un espace cultivable. Et comment vous traitez ce sol après tout ce travail?
Comme on a libéré le sol, on appelle ça la surface agraire utile ou la surface cultivable. Vous pouvez maintenant lui apporter soit de la matière organique par enfouissement, soit à travers un paillage simple, soit par injection de la matière organique. Et maintenant, vous donnez une chair à ce sol-là.
L'enfouissement et le paillage, si vous pouvez expliquer ça terre à terre.
Merci. La technique de paillage consiste à éparpiller la matière végétale, les feuilles mortes, les pailles qu'on récolte ou qu'on défriche. Au lieu de les brûler, on fait du paillage avec. Donc vous déposez ça tout simplement pour couvrir le sol. Et quand vous couvrez le sol, si c'est en saison sèche, les rayons solaires ne peuvent pas taper directement le sol. Si c'est en saison pluvieuse, l'eau ne peut pas emporter le sol par ravinement, c'est-à-dire par érosion, quoi. Quand l'eau transporte la terre, la fertilité, donc ça permet de conserver la petite quantité d'eau qui est tombée dans le sol et qui s'infiltre. Maintenant, l'enfouissement, c'est quand le sol devient humide et vous cultivez en mettant sur la matière organique. Vous couvrez la matière organique là pour qu'elle se décompose. Donc c'est ça l'enfouissement. Quand elle se décompose, elle laisse de la fertilité, de l'humus. Et donc le sol devient léger et très riche en matière organique.
Au départ, vous avez parlé d'une étude que vous avez menée. Mais maintenant, d'où vous vient cette technique? Elle est ancestrale ou bien elle est moderne?
Nous utilisons les deux sources. D'abord, nous partons des pratiques de nos ancêtres. On sait que déjà selon nos investigations ou quand on a fait les enquêtes sur comment l'agriculture se faisait dans l'ancien temps auprès des vieux, donc ils nous ont dit ce qu'on faisait avant. Que au fait, quand on dit qu'on veut par exemple coiffer l'environnement, on ne brûle pas, on taille, on sarcle et on range. Mais actuellement, quand on veut coiffer, on met le feu. Et les vieux nous disent que c'était pas ça. Et on a dit, cette pratique ancestrale-là, il faut maintenant la développer et la montrer aux jeunes comme ce qui était nos valeurs. Donc, ce qui fait que les pratiques agraires de nos milieux ancestrales sont à conserver et à mieux développer. Donc ça, la première source, c'est ancestrale. Donc la seconde source, ça c'est ce que nous visitons dans les documents. donc qui fait de l'agriculture écologique, et comment restituer au sol ce qu'on lui a enlevé. Le sol comme une banque. Si vous empruntez de l'argent dans une banque et vous ne retournez pas l'argent, il y a le trou. Donc de la même manière, quand vous sortez du sol sa fertilité, parce que dans les livres on dit azote, on dit phosphore, on dit potassium, c'est ce qu'il y a dans la fertilité ça. Donc si on enlève ça par la culture du maïs ou du sorgho et on ne retourne pas la matière organique, on a volé au sol sa fertilité.
Tout ça là pour améliorer les rendements, on comprend que l'avantage c'est la fertilité des sols en général. Mais actuellement, quelles sont les cultures qui sont développées sur ces surfaces?
On peut cultiver aujourd'hui du manioc. Si vous voyez les champs de manioc, ça c'est très intéressant à voir. On cultive de l'igname sur ces sols pauvres. Et maintenant, on est à 22 tonnes à l'hectare, 23 tonnes à l'hectare, alors que la norme, c'est 12 à 15 tonnes à l'hectare. Pour le manioc, vous pouvez arriver à 26 tonnes à l'hectare. Nous développons aussi les cultures de maïs, par exemple, de sorgho, sur ces sols-là, sans engrais chimiques. Et maintenant, pour les paysans, on dit, au lieu d'utiliser les 100% d'engrais chimiques, vous pouvez utiliser 50% d'engrais chimiques et 50% de matière organique. Ça vous réduit les dépenses. Donc, et c'est ce que les femmes, les populations aussi font. On fait du fonio, on fait du mil, du petit mil. On fait aussi du boinzou, on fait des haricots.
Oui, justement, les cultures traditionnelles comme le fonio, le boinzou, est-ce que la fertilité des sols peut amener à ce qu'on ait de bons rendements?
Bon, c'est ce qu'on a l'habitude de se dire communément, que bon, le fonio n'a pas besoin d'assez de fertilité. C'est comme une personne qui est déjà en un bon point et on dit que lui n'a pas besoin de manger. Vous voyez, il faut quand même donner au sol qui doit contenir le fonio un minimum d'azote, de phosphore, et pour que le fonio qui se développe quand même ait un bon gabarit, se présente très bien. Et avec la matière organique, vous allez voir que le fonio va résister mieux à la sécheresse, le fonio va résister mieux aux attaques. Parce qu'il y a quand même de la fertilité qui lui donne de l'énergie pour résister aux différents stress-là. On appelle ça les stress ou les chocs climatiques. Donc vous allez voir que maintenant les températures, ça change de temps en temps. La pluie, ça s'arrête. Et si c'est sur un sol pauvre, vous avez mis le fonio ou le sorgho. Donc vous allez voir qu'il va faner. Mais s'il y a un peu de fertilité, ça va servir vraiment de soutien, de pont de soutien, pour que la plante puisse résister jusqu'à la prochaine pluie. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il est important de donner un peu de fertilité au sol.
Parlez-nous de vos expériences et de l'apport aux agriculteurs de la région.
Nous travaillons beaucoup plus avec les femmes. Et nous avons près de 300 à 500 femmes que nous accompagnons dans les 15 cantons de la préfecture de Doufelgou. Par rapport à chaque groupe, et par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, nous les accompagnons dans les éléments comme le compostage. On leur dit comment il faut recycler les déchets de leur élevage. On fait un peu de compostage et on les initie au compostage simple, pas compliqué, dans leur langue, pour qu'ils puissent vraiment mettre un lien entre l'agriculture et l'élevage. Ce qu'on fait aussi avec eux, nous faisons donc de la restauration des sols. Comment libérer l'espace? Ça, au moins, ils peuvent le faire, ne pas avoir des tas de cailloux et dans son champ, savoir recycler ces cailloux-là ou ces pierres-là dans la construction ou bien dans le renforcement des limites de leur parcelle. Et plus le sol est libéré, l'enfant peut travailler dedans, la femme peut travailler avec la petite roue. Donc c'est aussi une expérience qu'on partage avec ces femmes qui augmente leur rendement. Le troisième élément sur lequel on met l'accent, c'est la conscientisation sur la lutte contre les feux de végétation. On leur dit que, au lieu de brûler, vraiment, il faut pailler, il faut remettre ça au sol. Donc, par rapport à la pratique du feu, je crois que c'est une bonne chose qu'on leur partage. Autre chose aussi qu'on fait, c'est les entretiens autour des arbres qui sont dans les champs. Le néré, on sait ce que le néré peut apporter dans la vie d'un ménage. Le karité, le palmier à huile, si elle peut cueillir du karité, amener au marché, ça fait plaisir. Si elle peut avoir du néré, ça fait plaisir. Et elle transforme aussi. Et la valorisation donc des plantes qui rentrent dans l'alimentation.
Est-ce que vous recevez ici les groupements ou les agriculteurs des autres régions, voire des pays de la sous-région, pour au moins partager d'expérience?
Oui, parce que nous, quand on prend par exemple notre philosophie, c'est de partager. Donc c'est des visites. On partage tout simplement pour que ça soit inspiré.
Vous avez des difficultés que vous rencontrez ici. Apparemment, tout marche bien.
C'est pas évident. C'est pas évident. Au SIDA, comme on le dit, c'est une œuvre un peu privée, mais qui travaille beaucoup avec le gouvernement togolais, parce que nous avons tous les documents officiels. Avec le ministère de l'Agriculture, on travaille. Nous travaillons aussi avec le ministère du Développement à la base. Ils nous donnent un peu de ressources. Ça permet d'entretenir les tableaux pédagogiques et puis d'entretenir les formateurs. Donc l'autre problème aussi, c'est le problème de l'espace, la terre. C'est difficile d'avoir des parcelles pour former les gens.
Vous pouvez bouger pour aller dans une autre région où vous voulez vous en tenir à votre Doufelgou natal?
Non, bon. Puisque nous avons un institut de formation agricole, on se dit, si un jeune, si quelqu'un a un peu d'espace, on peut implanter des unités et qui peut vraiment faire former les gens sur place. Donc c'est comme ça qu'on veut, pour que les jeunes des régions de leur provenance, s'ils peuvent ouvrir quelque chose, nous on va accompagner. Nous accompagnons aussi des entrepreneurs et des tenanciers de fermes pour qu'ils développent bien des parcours pour que les jeunes puissent s'inspirer.
Et votre mot de fin?
Bon, mon mot de fin, c'est de dire d'abord merci à la radio pour nous avoir aussi offert cet espace pour communiquer un peu sur nos activités. Souvent, on a des difficultés aussi à communiquer. C'est aussi une difficulté. Donc, nous voulons vous dire merci pour cette opportunité. Dire aussi merci aux amis qui nous écoutent et dire aussi s'il y a des questions ou des compléments en conseil, ça peut nous parvenir pour qu'on améliore aussi la communication autour du centre. Merci à vous et bonne journée.